Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 22 septembre 2014, en direct de Washington, au micro Morgane Guériac et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, épidémie d'Ebola, un cas a été signalé dans une nouvelle localité en Guinée.
Le nouveau cas signalé à Dalaba, à environ 360 km de Conakry, complète à 11 le nombre de villes ayant enregistré les malades d'Ebola en 21 jours.
Et la Sierra Leone a conclu 3 jours de confinement forcé de la population.
Le Mali célèbre le 54e anniversaire de son indépendance, alors que dans le nord, l'insécurité persiste.
La situation sécuritaire se dégrade de jour en jour dans la région de Kidal. En moins d'un mois, le Tchad seul a perdu plus de 10 soldats. Selon le communiqué du gouvernement tchadien, les militaires de leur pays ne doivent pas être utilisés comme des boucliers.
Progression des djihadistes de l'État islamique. L'organisation islamiste assiégeant hier Aïn al-Arab en Syrie après avoir pris une 60aine de villages.
En Afghanistan, Ashraf Ghani est désigné président, sans oublier nos pages sport et musique, mais avant le journal.
Épidémie d'Ebola en Guinée, un cas a été signalé dans une nouvelle localité. Sur place, Zakaria Camara, notre correspondant, fait le point.
Le nouveau cas signalé à Dalaba, à environ 360 km de Conakry, complète à 11 le nombre de villes ayant enregistré les malades d'Ebola en 21 jours. L'équipe de Riposte a déclaré cette semaine aux journalistes que les efforts restent à faire. Dr Sakoba Keïta, coordinateur national de lutte contre Ebola.
La plupart des messages que nous diffusons, ces communautés éloignées n'arrivent pas à les écouter et à s'approprier. Il a été montré aussi que les rumeurs ont pris du terrain et que si on ne réagit pas de façon prompte aux rumeurs, on risque de connaître des scènes regrettables. Notre pays a raté de justesse un tel incident dans la préfecture de l'Abbé suite à la distribution des dispositifs dans les mosquées et qu'il y a des esprits malveillants qui ont fait circuler que ces dispositifs contenaient des talismans contre les fidèles qui fréquentaient ces mosquées.
Au nom des obstacles à la riposte, le porte-parole du gouvernement a cité la porosité des frontières. Damantan Albert Camara promet des contrôles stricts.
Les passages clandestins dans les petits sentiers de la forêt alimentent un business avec les passeurs. L'objectif, c'est de faire de telle sorte que les gens passent par les frontières officielles de manière à pouvoir être contrôlés, testés et surtout identifiés.
Enfin, les chiffres. Médecins sans frontières annonce 974 cas, dont 630 décès. 79 malades sont dans les centres de traitement, alors que 269 personnes ont quitté l'hôpital guéri selon la même source. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Sierra Leone a mis fin à 3 jours de confinement forcé de sa population dans le but de combattre la propagation du virus à Ebola qui a déjà causé plus de 2600 morts en Afrique de l'Ouest. Issia Kaba.
Le ministère de la Santé a déclaré dimanche qu'il avait atteint 75% de son objectif et que l'opération a touché environ 1,5 million de foyers. Le gouvernement avait ordonné aux 6 millions d'habitants de la Sierra Leone de rester chez eux vendredi, samedi et dimanche afin que les équipes de santé puissent faire du porte-à-porte, essayant de localiser les patients cachés et éduquer le reste de la population sur la façon d'éviter cette maladie mortelle. L'opération s'est déroulée apparemment sans incident, sauf samedi, lorsque des jeunes ont attaqué des travailleurs qui essayaient d'enterrer les corps des victimes d'Ebola près de la capitale, Freetown. Les assaillants se sont dispersés après l'arrivée de renforts pour protéger l'équipe chargée de la sépulture. Selon les autorités, la sensibilisation sur Ebola se poursuivra dans les communautés qui ont été identifiées comme des points chauds à travers le pays. Le virus a infecté plus de 5300 personnes en Sierra Leone, au Liberia et en Guinée cette année et tué plus de 2600. Le gouvernement américain a promis une assistance de 175 millions de dollars et l'envoi de 3000 soldats dans la région pour ériger des hôpitaux de campagne et offrir une aide logistique.
Et notons qu'au Nigeria, les élèves reprennent l'école aujourd'hui après des vacances prolongées à cause d'Ebola. Cependant, le syndicat majoritaire des professeurs continue à s'inquiéter des risques de propagation du virus dans les établissements. Jusqu'à présent, le virus Ebola a tué 8 personnes au Nigeria sur 20 cas confirmés.
Au Nigeria, toujours les rumeurs sur la mort du leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, lors d'affrontements avec l'armée camerounaise, sont reçues avec scepticisme. Un de nos correspondants dans la région confirme cependant la mort de plusieurs militants ces derniers jours. Par ailleurs, des détails sont disponibles depuis hier sur une attaque de la secte islamiste dans un marché de l'état de Borno qui a fait des dizaines de morts. Chérubin Dorcy l'adjoint Aboubakar Gwarzo.
C'était des membres de Boko Haram qui ont attaqué le vendredi un marché dans une ville qui s'appelle Menok, dans l'état de Maiduguri. Il y a plus de 36 morts actuellement.
Entre-temps, il y a des rumeurs persistantes sur la mort de plusieurs militants de Boko Haram tout près de la frontière camerounaise.
Oui, mais selon l'armée nigériane, ils ont confirmé d'avoir tué plus de 23 militants de Boko Haram. Et puis, de l'autre côté aussi, vers la frontière du Cameroun, Boko Haram aussi a pu tuer 4 Camerounais.
Et rien n'a été dit sur le sort de Aboubakar Shekau.
Shekau, tout le temps, il y a des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a aucune source qui nous confirme que Shekau est décédé. De temps en temps, des rumeurs courent. Il y a Shekau est décédé, Shekau n'existe pas. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas confirmer le terme de Shekau. Il faut qu'on donne autant au temps pour que nous puissions vérifier l'authenticité de l'information de son décès.
Voilà, c'était Aboubakar Gwarzo, correspondant de La Voix de l'Amérique à Kano, dans le nord du Nigeria.
Au Mali, l'explosion d'une mine a tué au moins 2 civils près d'Agelok, dans le nord-est du pays. L'incident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, ont déclaré des sources militaires dimanche. 10 soldats tchadiens de la mission de l'ONU, la MINUSMA, ont déjà été tués ces 2 dernières semaines par 3 mines différentes. C'est dans ce contexte d'insécurité que le pays célèbre le 54e anniversaire de son indépendance aujourd'hui. Ne manquez pas le reportage de notre correspondant en seconde partie de cette émission.
Et 10 migrants au moins ont trouvé la mort et près d'une trentaine sont portés disparus à la suite d'un naufrage au large des côtes libyennes, rapportaient hier des médias italiens. Selon l'AFP, une embarcation surchargée tentant de rejoindre l'Italie à partir de l'Afrique du Nord a coulé à une quarantaine de kilomètres de la côte libyenne, selon ces informations. 55 personnes ont été recueillies par un bateau marchand. Les survivants ont affirmé aux secouristes que l'embarcation qui a coulé transportait une centaine de personnes.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Progression des djihadistes de l'État islamique. L'organisation islamiste a assiégé hier Aïn al-Arab, une ville kurde clé en Syrie, après avoir pris une soixantaine de villages. C'est ce qu'annonce l'AFP. Des dizaines de milliers de Kurdes syriens se sont enfuis vers la frontière turque. Mais selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, des heurts à la frontière ont provoqué la fermeture de la majorité des points de passage. La prise d'Aïn al-Arab permettrait à l'État islamique de contrôler une large portion de la frontière syro-turque sans discontinuité et de renforcer son emprise dans le nord syrien, où il occupe de vastes régions.
Et toujours concernant la menace que représentent les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif se sont entretenus hier à New York. Cette rencontre entre les deux gouvernements, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 34 ans, s'inscrit dans la volonté exprimée par Washington de discuter avec Téhéran des moyens de lutter contre les ultra-radicaux sunnites de l'État islamique. En réaction, le Premier ministre israélien a mis en garde contre un allègement des sanctions contre l'Iran pour son programme nucléaire controversé en contrepartie du soutien de la République islamique à la lutte contre le groupe État islamique.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exprimé l'espoir d'une signature rapide de l'accord de sécurité entre les États-Unis et l'Afghanistan, régissant la présence d'un contingent militaire américain après 2014. Le chef de la diplomatie américaine réagissait à la désignation dimanche d'un président afghan en la personne de l'ancien ministre des Finances Ashraf Ghani. Claire Morin-Gibourg.
L'accord bilatéral de sécurité a été négocié depuis au moins un an, mais le président afghan Hamid Karzai a refusé d'y apposer sa signature. Maintenant, avec l'élection d'un nouveau président à Kaboul, Washington espère que ce sera vite fait. Félicitant Ashraf Ghani pour sa victoire au scrutin du 14 juin, John Kerry a estimé depuis New York, où il doit participer à l'Assemblée générale de l'ONU, que cela offrait une occasion immense de faire des avancées en Afghanistan et de signer l'accord dans une semaine environ. L'ancien ministre des Finances et ex-économiste de la Banque mondiale a été déclaré le président élu de l'Afghanistan quelques heures après qu'il a signé un accord avec le finaliste Abdullah Abdullah sur le partage du pouvoir. L'annonce a terminé 3 mois de crise électorale et d'incertitude sur l'avenir politique du pays. Selon le responsable de la commission électorale, Ahmad Youssouf Nouristani, après l'invalidation de plusieurs centaines de milliers de voix dans le processus de vérification, la commission déclare Ashraf Ghani nouveau président de l'Afghanistan, mettant ainsi un terme au processus électoral. Nouristani n'a pas révélé le décompte final du scrutin, disant qu'il a été partagé avec les deux candidats à la présidentielle. Il n'a pas répondu aux questions des journalistes.
En Chine, 3 explosions ont fait au moins 2 morts et de nombreux blessés hier dans le Xinjiang. C'est ce que rapporte le site gouvernemental d'information Tiangshan. Cette région musulmane est en proie à de vives tensions interethniques. Une partie des Ouïghours se sont radicalisés ces dernières années et rejettent la tutelle chinoise. Pékin a lancé ces dernières semaines une vaste campagne de répression qui s'est traduite par plus d'une vingtaine d'exécutions annoncées officiellement, des centaines d'interpellations et des condamnations de masse.
Enfin, le vaisseau spatial américain Maven est arrivé en orbite de Mars hier soir après 10 mois de voyage et avoir parcouru plus de 700 millions de kilomètres. C'est ce qu'a annoncé la NASA.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Nous partons en République centrafricaine. La semaine dernière, la présidente Catherine Samba-Panza a noté avec satisfaction la baisse des violences intercommunautaires dans la capitale Bangui. Mais ailleurs dans le pays, de vives tensions persistent entre communautés musulmanes et chrétiennes. C'est le cas à Boda, ville diamantifère située à 195 km au sud de Bangui. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Bagessikoura.
Maisons détruites, boutiques pillées, lieux de culte incendiés, à Boda, les stigmates de plusieurs mois de violents affrontements entre chrétiens et musulmans sont visibles partout. Ici, les deux communautés se regardent en chien de faïence.
Celui qui s'éloigne de l'enclave est tué.
Altaïr Abdallah est l'un des notables de la communauté musulmane.
On ne peut pas bouger, même ce petit pont que vous voyez, nous ne pouvons pas le franchir. Aucun musulman ne peut le franchir.
Alhaji Mahamat Adamou, 70 ans, dit qu'il est collectionneur de diamants depuis 24 ans.
Quand les événements ont commencé, ils ont tout ramassé sur mes chantiers minis. Tous les outils, les motopompes, les diamants. Les chrétiens ont tout ramassé. Ils ont repris l'exploitation du diamant sur mes chantiers.
De son côté, Altaïr Abdallah, lui aussi exploitant de diamants, explique que cette crise n'a rien à voir avec le diamant. Sinon, on se serait battu depuis très longtemps, dit-il.
Notre souhait, c'est de nous entendre avec nos frères et qu'on puisse se promener librement comme auparavant.
Un message de réconciliation qu'on ne semble pas prêt à recevoir de l'autre côté du pont. À quelques 500 mètres de là, Sylvain, dans ses Ray-Ban, parade au milieu des anti-balakas. Ici, c'est lui le chef.
Si on a dit départ des musulmans, soit opinion internationale.
Nous ne demandons que le départ des musulmans de Boda, que la communauté internationale ne se fatigue pas pour payer du riz, de l'huile pour les musulmans, qu'elle utilise cet argent pour payer des véhicules, pour délocaliser les musulmans, et la population sera libérée.
Malgré la présence des forces françaises de l'opération Sangaris et des casques bleus, la région reste largement sous le contrôle des anti-balakas, véritable maître de Boda. Bagessikoura de retour de Boda pour la Voix de l'Amérique.
Voilà, cap maintenant sur la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a signé la semaine passée une série d'ordonnances sur l'organisation et le fonctionnement des forces armées de la RDC. Des mesures qui font débat au sein de la classe politique et la société civile. Certains y voient un moyen de consolider la paix à l'est du pays. Mais pour d'autres, ces mécanismes visent à perturber les prochaines élections qui s'annoncent difficiles dans le pays. De Goma, le reportage de Primo Pascal Roudaïgua. Voilà, il semblerait qu'on ait un problème technique, donc on va partir au Mali qui célèbre aujourd'hui son indépendance. Mais les festivités du 54e anniversaire du pays sont dominées par la crise au nord du pays. Les Maliens suivent de près les pourparlers d'Alger alors que sur le terrain, la tension monte. À Gao et à Tombouctou, des marches ont été organisées au cours des derniers jours pour protester contre toute idée de fédéralisme, d'autonomie ou de séparation. Les manifestants ont réaffirmé leur appartenance à un Mali indivisible. Dans le même temps, la sécurité demeure une préoccupation pour les Nations Unies dont les soldats ont récemment fait l'objet d'attaques. De Bamako, Kassim Traoré fait le point.
Les pourparlers d'Alger sont suivis de près par les Maliens. Certains partis politiques ont fait des contributions aux autorités maliennes avant le début de ces pourparlers, comme les forces alternatives pour l'émergence et le renouveau phare, dont l'ancien premier ministre Modibo Sidibé en est le président.
Les moments sont critiques. Les pourparlers d'Alger, nous avons donné notre contribution, mais il est clair que les Maliennes et les Maliens doivent être vigilants pour faire valoir l'ensemble des préoccupations que nous avons pour notre pays. Un Mali indivisible, une nation unie et plurielle, la souveraineté sur l'ensemble du territoire du Mali.
La population des régions nord du Mali sont contre les avis des groupes armés qui parlent selon elles en leur nom et place sans être mandatés. Les différentes communautés de Gao l'ont fait savoir à travers deux activités, une marche et une rencontre de notabilités avec le gouverneur de la région.
Les notabilités de Gao soutiennent la marche du 18 septembre 2014 des jeunes et des femmes pour un Mali indivisible.
On n'acceptera jamais à ce que le Mali soit divisé. On veut toujours un Mali uni. Donc, toute personne qui veut la division du Mali, en tout cas, on ne composera pas avec lui.
Même son de cloche dans la cité des 333 saints. Le collectif Une Voix pour Tombouctou a organisé une grande marche de protestation. La situation sécuritaire se dégrade de jour en jour dans la région de Kidal. En moins d'un mois, le Tchad seul a perdu plus de 10 soldats. Selon le communiqué du gouvernement tchadien, les militaires de leur pays ne doivent pas être utilisés comme des boucliers. Bert Conders, chef de la mission de l'aménagement au Mali.
Ce sont des harcèlements, mais c'est même plus que ça. Ce sont des attaques contre nos forces, contre les forces tchadiennes, contre nos grands amis dans le MINUSMA, les tchadiens qui ont perdu de nouveau 5 soldats. C'est clair, ce sont pour les gens qui ne veulent pas la paix, qui voient qu'il y a des négociations, qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe en Algérie, ils veulent le détruire. Bon, ils vont trouver la communauté internationale contre eux.
S'adressant au peuple malien dans le cadre de la célébration des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Mali, le chef de l'État malien n'a pas oublié la crise sécuritaire qui sévit dans le nord du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta.
Dans la mémoire, toutes celles et tous ceux, anonymes ou célèbres, simples citoyens ou responsables publics, qui ont été victimes de la crise que nous avons vécue. Tirant tous les enseignements du passé, nous avons décidé de privilégier la voie du dialogue en vue de parvenir à un accord de paix global et définitif.
Compte tenu de la situation sécuritaire, la célébration du 54e anniversaire du Mali se fera dans la plus grande sobriété. Dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance et une prise d'armes à Kati qui seront présidées par le président de la République sont les deux activités au programme. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Le débat est contradictoire au Nord Kivu en rapport avec les récentes nominations effectuées par le président de la République au sein des FARDC. Jean-Baptiste Kasekwa est chef des travaux à l'Université de Goma et secrétaire exécutif de l'ESID, un parti politique de l'opposition.
J'ai suivi la réforme de l'armée. Eh bien, j'ai vu beaucoup d'officiers viennent des groupes armés. C'est donc une prime à la guerre qu'ils ont gagnée.
Pour l'analyste politique Godefroy Kamana, cette réforme de l'armée est taillée sur mesure en fonction des prochaines élections qui risquent de plonger la RDC dans le chaos.
La réorganisation des FARDC, la nomination de nouveaux officiers, tout ça, c'est pour préparer la guerre qui est prévisible Aujourd'hui, 2016, on change la constitution et le président et le gouvernement actuel continuent, d'autres rébellions naissent et cette fois avec une légitimité plus grande en disant, vous voyez, ils n'ont pas respecté la constitution, ils n'ont pas la légitimité.
Les politiciens proches du pouvoir en place sont plutôt rassurés parce qu'il s'agit des actes légitimes posés par le chef de l'État. David Kamouha est le secrétaire général adjoint du BUREC, c'est les blocs unis pour la renaissance et l'émergence du Congo.
Cette nomination qui vient d'avoir lieu rentre dans l'application de la nouvelle loi sur la défense nationale. Lorsque l'État organise son service de défense, qu'on dise maintenant que c'est la préparation de la guerre, effectivement on organise son moyen de défense pour se préparer contre toute guerre, ça on ne peut pas appeler ça une mauvaise chose.
Il pense aussi que tous les Congolais devaient soutenir cette réforme de l'armée.
Je crois plutôt que c'est effectivement positif et qu'on doit saluer cette mise en place qui consiste effectivement à réorganiser notre système de défense, à commencer par son appareil principal qui est l'armée nationale. C'est tout à fait légitime.
Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Le Sénégal n'a plus de cas d'Ebola. Le jeune Guinéen malade qui était entré dans le pays est guéri. Il est rentré chez lui. Quant aux personnes avec qui il était entré en contact, il semble qu'elles n'ont pas été contaminées. Mais les mesures préventives sont toujours de rigueur. Le gouvernement, qui a décidé de lever le blocus à l'approche de la fête du mouton, rassure quant au renforcement de la sécurité. De Dakar, la correspondance de Diena Basseidouba.
Il y a eu beaucoup de morts dans ça, j'avais appris avant de venir ici.
Ce sont là les premiers mots de Mamadou Aliou Diallo, le seul cas d'Ebola au Sénégal. Il est guéri et rentre au pays.
Bon, vraiment, je suis vraiment content. Ce n'est pas parce que c'est la fièvre Ebola qui veut dire que vraiment j'étais obligé de mourir. Et surtout en plus que les docteurs ont pris soin de moi. Donc vraiment, je suis ravi d'être guéri de cette maladie.
Plus de cas d'Ebola, le ministre de la Santé est formel. Les personnes en contact avec le jeune Guinéen ont été dépistées et n'ont pas la maladie. Mais le suivi est maintenu. Awa Marie Kolsek.
Toutes ces personnes ont bénéficié d'un suivi médical bi-quotidien avec une prise systématique de la température et ces personnes, aucune d'entre elles n'a développé de maladie. Donc après 21 jours de suivi, le risque de dissémination de la fièvre à virus Ebola à partir du cas qui a été diagnostiqué et en conséquence donc nul pour notre pays.
Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner les mesures préventives. Awa Marie Kolsek.
Il faut que les gens se rassurent. Les médecins compétents sont sur place, les infirmiers compétents sont sur place et peuvent régler vraiment beaucoup de problèmes pour les populations. Donc il y a toujours un peu de panique.
Avec cette fête du mouton qui approche, les autorités ont décidé de lever temporairement le blocus au niveau des frontières. C'est pour permettre aux vendeurs de l'Afrique de l'Ouest d'accéder au Sénégal. Mais les mesures sécuritaires vont suivre. Aminata Manguindiaï, ministre de l'Élevage.
Je sais que le dispositif sécuritaire qui a été mis en place par le ministre de l'Intérieur au niveau de nos frontières est un bon dispositif. Jusqu'à présent, je pense qu'il faut saluer ces efforts qui ont été faits par le gouvernement. La ruse, les gens l'utilisent dans tout ce qu'ils font, mais il faut espérer que ce dispositif-là puisse continuer de sévir, de travailler de la façon dont il le fait aujourd'hui pour que nous ne puissions pas avoir d'intrus ou quoi que ce soit dans le pays.
Ebola hante toujours les populations, même si le cas importé est rentré en Guinée. Le ministère de la Santé est toujours sur le qui-vive. Même avec la levée du blocus, la sécurité reste de mise à la frontière. Diena Basseidouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Allez, on passe au sport avec Chérubin Dorsil. Bonjour Chérubin.
Salut Morgane.
Parlons pour commencer de la Ligue des champions d'Afrique.
On a joué hier dimanche des demi-finales allées, notamment en Algérie, où l'entente sportive de Sétif a battu le tout-puissant Mazembe de la RDC sur le score de 2-1, bien que les Congolais aient ouvert le score à la 52e minute. À Kinshasa, les Tunisiens du CS Sfaxien sont tombés sur le même score, 2-1 face à Vita Club.
Impact de l'épidémie d'Ebola sur le foot, l'interdiction contre 3 pays ouest-africains s'étend.
En raison de l'épidémie, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ne pouvaient déjà plus accueillir de matchs internationaux sur leur territoire jusqu'à la mi-septembre. Samedi, la Confédération africaine de football a en effet étendu sine die cette mesure de précaution contre la contagion. La mesure ne concerne pas le Nigeria et le Sénégal, où Ebola provoque des inquiétudes. Pour les éliminatoires de la CAN 2015, la Guinée a prévu de jouer au Maroc contre le Togo, tandis que la Sierra Leone devrait se retrouver chez l'adversaire, malheureusement, au lieu d'être à domicile pour son match d'ouverture face à la RDC.
Alors, on a joué sur beaucoup de terrains en Europe en cette fin de semaine. Quelques résultats?
Oui, samedi, dans le championnat d'Espagne, le Real Madrid a brillé de mille feux, écrasant le Deportivo La Corogne 8-2, y compris un triplé de Cristiano Ronaldo. Mais le titre de leader de la Liga revient au FC Barcelone, qui a passé une claque de 5-0 à Levante. L'Atlético Madrid a fait match nul 2-2 avec le Celta Vigo. Autre vainqueur, Almeria 2-1 face à Real Sociedad hier. FC Séville n'a pas fait de cadeau à Cordoba, renvoyé 3-1. Villarreal a battu Rayo Vallecano 4-2. En France, c'était la 6e journée du championnat de vendredi à hier. Entre autres résultats, Lyon tient le PSG en échec 1-2. Saint-Étienne gagne 1-0 face à Lens. Score vierge entre Lille et Montpellier. Nantes bat Nice 2-1, pour ne mentionner que cela. Dans la Premier League en Angleterre, la 5e journée a vu l'humiliation de Manchester United à Leicester 5-3. Man U a chuté en 12e position. Match nul 1-1 entre les champions de Manchester City et Chelsea. Arsenal a obtenu une victoire facile aux dépens d'Aston Villa, score 3-0. Deux leaders dans le championnat italien, la Juventus de Turin qui a battu l'AC Milan 1-0 pour le compte de la 3e journée et l'AS Rome qui a aussi 3 victoires en 3 rencontres. Le leader de la Bundesliga en Allemagne, c'est Paderborn. Eh oui, Paderborn qui a battu Hanovre 2-0. Le Bayern de Munich n'a pu empocher qu'un nul 0-0 face à Hambourg. Il est classé 4e pour le moment.
Enfin, sacre des Polonais en volleyball international, Gabi.
Morgan, la Pologne a remporté son 2e titre mondial de volleyball messieurs 40 ans après le premier en dominant le Brésil, triple tenant du titre, 3-7-1. La rencontre s'est déroulée hier à Katowice en Pologne. Revanche donc pour les Polonais qui avaient perdu en finale face à cette même équipe brésilienne à Tokyo au Japon il y a 8 ans.
Allez, c'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. Tian Winter est un artiste né à Antigua, très motivé et confiant. Cet artiste a un talent fou avec une capacité unique de mélanger des chansons populaires et R&B dans un style caribéen contemporain, créant un produit musical qui fait bouger tous ses fans. Ce matin, on l'écoute, on bouge aussi, pourquoi pas, dans Bump and Grind. Non, 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 non.
Tian Winter loves the girls. Hey.